L'Amorce avec Jean-Simon Guy.
Bon matin, il est 5h pile. Bienvenue dans l'Amorce. On est déjà mardi, le 10 décembre 2019. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous taper une journée printanière aujourd'hui. Genre, journée fin mars, c'est à peu près comme ça qu'on se sent présentement. Il fait chaud. J'aurais peut-être même pas dû mettre mon manteau d'hiver un matin. C'est vraiment des températures hors du commun qu'on vit présentement. Qu'une petite brume un peu en ce moment, là, c'est vraiment particulier. On bat un record, en fait, pour un 10 décembre à Québec. Le dernier 10 décembre le plus chaud, c'était 4,5 degrés, le maximum qui avait été atteint. Mais aujourd'hui, sachez qu'on va frôler les 7 degrés et qu'on en est déjà pas loin, là. 7 degrés Celsius qui sont prévus avec des quelques averses, probablement de pluie, là. Vous comprenez que c'est peu probable que ça tombe en neige présentement. Donc, ça se peut qu'il y ait des flaques d'eau à terre, un peu de slush. C'est ce qu'on attend un peu pour aujourd'hui. Et ce qui est encore plus particulier, ben, c'est le refroidissement très rapide qui va s'en suivre. C'est-à-dire que la nuit prochaine, on descend à moins 13. C'est ça le minimum qui est prévu. Pour atteindre un maximum de moins 9 mercredi, donc demain. Alors, on retourne rapidement vers des températures hivernales avec du soleil pour mercredi. Jeudi, maximum de moins 12 avec du soleil. Donc, ça aura été une très brève accalmie. Remarquez que quand on regarde vers la fin de semaine, on devrait remonter au-dessus de zéro, pour une brève période. Mais aujourd'hui, sachez-le, il va faire très chaud pour un 10 décembre, bien entendu. Et en ce moment, on a 5 degrés à Québec avec des nuages, bien sûr. Quelques mots concernant un fait divers qui s'est produit hier. Il y a eu un incendie à Charlebourg dans une résidence de la rue Méjanès, au 3457 plus précisément. Vers 20h20, les pompiers ont reçu un appel qui concernait un feu dans le sous-sol de cette résidence-là. Alors rapidement, on a sonné une deuxième alarme parce qu'il y avait risque de propagation. 35 pompiers au total qui ont combattu l'incendie. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé et on a été capable de maîtriser rapidement cet incendie-là. Alors sachez-le, incendie à Charlebourg hier soir qui a été rapidement maîtrisé. Dans l'actualité ce matin, on va commencer d'abord au fédéral. De bonnes nouvelles, oui, je pense qu'on peut dire que ce sont de bonnes nouvelles pour les contribuables, pour les gens qui paient des impôts. Les baisses d'impôts qu'on espérait du côté du gouvernement Legault se font peut-être attendre. Là, il y a eu certaines mesures, mais disons qu'on ne s'est pas nécessairement attaqué à la charge fiscale des contribuables pour le moment. Par contre, au fédéral, c'était dans les promesses de Justin Trudeau pendant la campagne électorale de s'attaquer au montant personnel de base. C'est quoi ça, le montant personnel de base? Ben, c'est le montant sur lequel vous ne payez pas d'impôts. Donc, les premiers milliers de dollars qui sont libres d'impôts, en quelque sorte, au fédéral. Alors, je vais laisser d'abord le ministre des Finances fédéral, Bill Morneau, annoncer ce que le gouvernement libéral compte faire.
Nous proposons de hausser ce montant à 15 000 $ d'ici 2023.
Parce que présentement, le montant est aux alentours de 12 500 $. En 2020, il devrait atteindre 12 300, en fait 12 298 $ plus précisément. Et là, d'année en année jusqu'à 2023, les libéraux veulent le faire grimper à 15 000. Et ça, ben, ce sont des économies d'impôts qui sont concrètes pour les gens. Et il y avait la ministre, nouvelle ministre en passant, là, ça c'est un nom assez particulier, mais il y a un ministère maintenant de la prospérité de la classe moyenne qui existe au sein du gouvernement libéral. Elle s'appelle Mona Fortier. Et elle a détaillé un petit peu comment on pourrait chiffrer ces économies-là pour les contribuables.
Lorsque ce changement sera entièrement mis en œuvre en 2023, une personne seule économiserait près de 300 $ par année en impôts. Et pour les familles, y compris les familles monoparentales, cela se traduirait par des économies de près de 600 $ par année.
Alors, c'est pas rien, on va le prendre, bien entendu, cette baisse d'impôts. Par contre, c'est pas fait. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire à Ottawa présentement. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'on veut faire une mesure importante en lien avec le budget, ça nous prend l'appui de quelqu'un dans la Chambre des communes, d'un autre parti, d'un des partis d'opposition. Ben, il n'y a pas eu trop de problèmes. Il semble, en tout cas, il n'a pas y avoir trop de problèmes concernant l'appui de cette mesure-là parce que le Bloc québécois s'est rapidement prononcé en faveur éventuellement de cette mesure-là en disant que ben oui, ça allait donner un peu d'oxygène aux gens qui payent des impôts au Canada. Donc, il semble que déjà du côté du Bloc québécois, on ait manifesté la volonté d'appuyer cette mesure-là. Donc, il semble que ça passe dans les prochains mois et que d'ici 2023, on arrive à un montant personnel de base, donc non imposable au fédéral, de 15 000 $. On passe en politique provinciale. Ça, c'est un projet pilote qui, je crois, est très pertinent compte tenu de ce qu'on a vécu dans les dernières années avec le MeToo et Et ainsi de suite, là, toute la saga autour de moi aussi, sur les médias sociaux, les gens qui sont sortis concernant des agressions sexuelles, concernant des gestes à caractère sexuel qui ne sont pas évidemment acceptables, ben c'est la ministre Sonia Lebel qui est la ministre de la Justice au Québec, qui est sortie hier pour parler d'un projet pilote, une subvention de 2,6 millions de dollars pour des services juridiques gratuits aux victimes de violences sexuelles. Ben, ce qu'elle a expliqué, en gros, c'est Madame Lebel, c'est que c'est pas toutes les victimes d'agressions sexuelles, de gestes à caractère sexuel, de harcèlement, par exemple, qui veulent nécessairement se retrouver en cours dans un procès. Mais par contre, des services juridiques, des services d'information, de conseil, ça peut être très utile. Alors, c'est la clinique Juripop qui va recevoir ça, un projet pilote de 15 mois, 2,6 millions de dollars, comme je vous le mentionnais. C'est quatre députés provinciales de chacun des partis, une de représentant chacun des partis présents à l'Assemblée nationale qui en ont fait l'annonce hier, de manière à ce que les femmes, ben, pas juste les femmes, mais majoritairement des femmes, là, qui ce sont des victimes féminines qui sont sorties en grande partie, puissent profiter de services juridiques gratuits, de conseils juridiques gratuits en lien avec les gestes qu'elles auraient subis. Alors, 2,6 millions de dollars qui sont investis par le gouvernement Legault dans ce dossier. À la une du Journal de Québec ce matin, ça attire l'attention, franchement, et c'est une énième histoire de protection de données personnelles ou de protection dans le monde du web ou encore de l'électronique, où est-ce qu'on se rend compte que finalement, ben, pas mal tout le monde est à risque de se faire pirater, y compris des personnalités publiques. Hein. Bon, pas besoin de revenir sur tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois. La saga Desjardins, bien entendu, où est-ce que tous les clients Desjardins sont touchés par une fuite de renseignements personnels. On a entendu parler de Capital One aussi. Il y a plusieurs compagnies qui ont été touchées par des fuites où est-ce que les gens, bon, voient leur adresse, leur nom, voient leur numéro d'assurance sociale se faire dérober par des gens qui ont de mauvaises intentions. Même arrivé chez Revenu Québec aussi, là. Chez Revenu Québec, il y a même une employée qui a été congédiée récemment en lien avec une fuite similaire. Mais là, cette fois-ci, il semble qu'il y a un pirate qui se soit attaqué au téléphone cellulaire de personnalités publiques québécoises. Alors, c'est d'abord Véronique Cloutier qui a sonné l'alarme il y a tout ça à peu près un an et demi. Alors, ce qui serait arrivé, c'est qu'il y a un individu qui aurait accédé au téléphone cellulaire de plusieurs dizaines de personnalités publiques au Québec. Selon les sources qui sont citées par le Journal de Québec, des sources anonymes, il y aurait des joueurs du Canadien de Montréal, il y aurait des artistes, des personnalités artistiques québécoises qui, carrément, auraient vu leur téléphone se faire pirater dans la dernière année et demie. Et il y a même des gens qui parlent de plus d'une centaine de victimes de piratage. Et c'est Véronique Cloutier qui a porté plainte à la police de Longueuil lorsqu'elle s'en est rendue compte. Ça n'a pas été confirmé en passant par la police de Longueuil, ces informations-là, mais on dit du côté des sources citées que ce serait une enquête très longue, une enquête extrêmement complexe aussi, et qui aurait eu le domicile d'un suspect qui aurait été perquisitionné il y a de ça quelque temps. Alors, ça veut dire qu'on avance dans l'enquête et qu'il y a déjà quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir commis ce geste-là. Comment ça peut fonctionner d'avoir accès à son téléphone cellulaire? Ben, on est allé questionner un spécialiste en sécurité informatique, Steve Waterhouse, qui explique qu'est-ce qui peut se passer en termes d'intrusion là, dans la vie privée de quelqu'un via un téléphone cellulaire. Alors, ça peut arriver via un logiciel malveillant, ce qu'on appelle un malware en anglais, là, vous avez peut-être entendu déjà le terme, là, qui est installé sans que l'utilisateur s'en rende compte. Souvent, c'est que la personne qui est propriétaire du téléphone va cliquer sur un lien, va appuyer sur un lien qui est envoyé par texto, sans penser que c'est un lien frauduleux. Et là, le logiciel va être installé à même le téléphone et va être en mesure d'espionner tout ce que la personne va faire, envoyer, recevoir via son téléphone cellulaire. Une autre possibilité, bon là, dans le cas des personnalités publiques, c'est peu probable, là, on s'entend que c'est peu crédible de penser qu'il ait réussi à aller chercher les cartes SIM, les petites cartes là, que vous avez à l'intérieur du cellulaire qui identifie chacun des téléphones de chacune des personnalités. Donc, tu fais une copie physique de ça et là, après ça, tu es en mesure de te connecter au réseau cellulaire comme si tu avais l'appareil en main. Ou encore, ça peut être aussi un employé du fournisseur de services cellulaires qui en ferait la réglementation. Alors, pour l'instant, on n'a pas de détails. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un pirate à distance qui est entré là-dedans? Ou encore, comme dans le cas de Desjardins, c'est quelqu'un à l'intérieur même d'une compagnie cellulaire qui a réussi à s'emparer de données sensibles, à être capable d'entrer à l'intérieur du cellulaire de Véronique Cloutier et de plusieurs autres personnalités publiques québécoises. Ben, on On n'a pas cette information-là pour l'instant, mais on dit que de plus en plus ça se produit, ce type de fraude-là. D'ailleurs, je suis persuadé que si je vous pose la question, vous avez déjà reçu par le biais de courriel, par le biais de texto, des invitations un petit peu douteuses à cliquer sur un lien. Vous savez pas trop ça vient de qui, ou encore vous recevez des appels bizarres qui proviennent de l'étranger. Ben, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus souvent. Et ce qui est assez inquiétant, ce qui donne froid dans le dos un petit peu, c'est qu'un consultant en sécurité informatique, Éric Lessard, dans l'article du Journal de Québec, qui dit qu'un enfant de 12 ans qui est capable de lire sur Internet puis qui est un petit peu doué technologiquement est capable de faire ça sans aucun problème. Alors, c'est pas très rassurant de savoir que ça doit se trouver sur Internet en tapant sur Google ou encore un peu plus loin de trouver des informations pour pirater des téléphones cellulaires. C'est pas quelque chose qui va nous faire mieux dormir la nuit en lien avec la protection de nos renseignements personnels. D'ailleurs, un peu en lien avec ça, il y a une nouvelle qui est tombée hier en lien avec le CRTC. C'est une décision du CRTC à partir du 30 septembre 2020, avoir des nouvelles normes en lien avec les fournisseurs de services de télécom, puis ils vont devoir mieux protéger leurs clients contre les appels là, qui n'ont pas de bon sens, justement, dont je vous parlais, là, des appels qui affichent un numéro de téléphone bizarre, fictif, hein, en provenance d'ailleurs. Et il y aurait des normes qui seraient mises en place par le CRTC pour que les fournisseurs de téléphonie cellulaire soient capables de dire « Ah, ce numéro-là, ben, il est suspect, il est bizarre, vous êtes peut-être mieux de pas répondre. » Je sais pas quelle forme ça va prendre exactement. Mais présentement, ben, c'est un fléau. Il y a plusieurs personnes, peut-être dans votre entourage, qui ont vécu la même chose. Il y a une série d'appels. Je pense que dans les dernières semaines, là, moi, de mon côté, j'en ai reçu d'Afrique de l'Ouest, là, des appels qui me disaient que j'avais une intrusion dans mon compte, ainsi de suite, là, sur ma boîte vocale. Donc, c'est assez fréquent, ce type de fraude-là. Et là, sachant qu'il y a des numéros de téléphone puis des données qui circulent un petit peu partout en raison des fuites des derniers mois, ben, c'est d'autant plus inquiétant, bien entendu. Alors, ça va être une bonne chose que le CRT contrôle ça et fasse en sorte que les compagnies de téléphonie cellulaire nous indiquent quand un numéro est un petit peu moins fiable, mettons. Un mot sur le tramway. Hier, il y avait une conférence de presse de la part du maire Labeaume concernant le garage secondaire du tramway. C'est le garage d'entretien qui devait être situé à l'est de la première avenue dans le quartier Lairet, dans Limoilou. Et ça devait être prendre un gros terrain, là. Ça devait être un terrain d'à peu près 3 hectares qui devait être là. Et les citoyens n'étaient pas très contents, là. Jusqu'à maintenant, le tramway ne fait pas que des heureux chez les citoyens. Parce que bon, il y en a d'abord qui se plaignent que ça va passer pratiquement dans leur cour, puis que ça va augmenter le bruit, baisser leur qualité de vie, leur capacité de profiter de leur propriété. Il y en a d'autres aussi qui ont peur de voir leur quartier se faire un peu défigurer. C'était le cas des gens du quartier Lairet, là. Ils s'étaient rassemblés. Ils avaient parlé haut et fort en disant non, il n'est pas question que vous installiez ça là. Aller couper un quartier résidentiel en deux puis empêcher le développement résidentiel aussi dans Limoilou. Bon, alors la ville a écouté cette fois-ci. C'est pas toujours le cas, mais là, il semble que la ville se soit laissée convaincre par les gens qui habitent dans le quartier Lairet. On a décidé de déplacer le garage secondaire du tramway. On va le mettre plutôt sur la 41e rue, pardon, entre l'avenue Duval et la rue de la Concorde. Donc, on est tout près de l'autoroute de la capitale, autoroute Laurentienne. On est vraiment tout près des autoroutes. Donc, on est à peu près 600 mètres à l'ouest de ce qui était prévu. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les gens du coin, parce qu'il va y avoir moins de circulation, moins de bruit, évidemment, là, pour les gens qui sont dans le quartier résidentiel qui est pas trop loin. Et en même temps, le maire Labeaume en a profité pour rassurer les gens un peu et leur dire que ben, s'il y avait des questionnements, s'il y avait des préoccupations ou des idées pour modifier certains éléments du projet de structurant de transport en commun, ben, l'administration Labeaume serait parlable.
Je veux que les gens sachent que dans ce projet-là, hein, ils peuvent me rencontrer. Ils peuvent nous rencontrer, puis on est parlable. Alors, si ce que vous nous demandez demande des millions de dollars d'investissement, on est moins là. Mais si ce sont des aménagements qui ont du bon sens, à prix raisonnable, que vous ne nous demandez pas de faire le tour de la ville avec le tramway, on est parlable. Alors, s'il y a des aménagements à faire, on est humain, on va le faire.
Alors, ben oui, il y a une certaine écoute, il semble, du côté du maire Labeaume et de son administration. Par contre, il en a profité pour dire, ben, écoutez, là, les gens qui demandent, par exemple, que le tramway se rende jusqu'au terminus de Marly, là, à Revenu Québec, ça marche pas parce que, justement, ça coûterait beaucoup trop cher. Sauf que dans certains cas, comme le déménagement d'un garage secondaire, ben, il n'y a pas eu de problème. On a été à l'écoute des citoyens, puis on a décidé de procéder au changement. Il va y avoir encore des nouvelles en lien avec le tramway aujourd'hui. Parce qu'il y a c'est une conférence de presse en lien avec l'évaluation environnementale du projet qui va se tenir aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs la présence de Daniel Genet, qui est le directeur du projet. Il va y avoir Rémi Normand aussi. Donc, on aura sans doute l'occasion d'en reparler de ce projet-là. Et il y a quelqu'un qui m'écrit au 25-226 Alain Brassard qui dit c'est deux fois plus résidentiel du côté ouest, d'après lui. Écoutez, moi ce que j'ai comme information, vous avez peut-être raison, peut-être que vous êtes dans le coin, là, mais moi, nous, ce qu'on dit du côté de la ville, c'est que le terrain va permettre de conserver le potentiel de développement immobilier à l'est de la Première Avenue. Donc, il semble que ça a été la préoccupation de la ville et il semble que ce soit également une meilleure façon d'insérer les infrastructures pour changer, par exemple, d'un mode à l'autre, là, du trambus au tramway. Donc, ça, c'est une décision de la ville. C'est sûr que ça risque de déplaire à certaines personnes, mais pour ce qui est des gens du quartier Lairet, il semble que ce soit un soupir de soulagement qu'ils émettent suite à cette décision de la ville. 5h15, on prend une pause dans quelques instants. On vous revient avec d'autres nouvelles.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
Au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Oui, décembre, c'est le mois des parties et je vous dis que ça va chauffer chez Beauport Hyundai. Avec un taux de 0% en location ou financement, plus 500 $ en crédit pour pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. 90 jours sans paiement sur tous les modèles. Et jusqu'au 2 janvier, vous recevez en plus 500 $ en bonus de fin d'année sur les véhicules en stock sélectionnés. Procurez-vous le Santa Fe 2020 à 75 $ par semaine en location 48 mois avec léger comptant.
Toujours et seulement chez Beauport Hyundai.
Rue Clémenceau, 666-2000.
Les sœurs Marie-Ève et Valérie Garneau, du groupe Garneau Thanatologue.
Le temps des fêtes est un moment difficile pour le deuil.
C'est pourquoi nous mettons tout notre cœur à vous accompagner dans ce passage difficile, comme notre père nous l'a appris.
Nos deux complexes de Lévis, dont le complexe Blais, Gilbert et Turgeon, sont modernes, spacieux et très accueillants.
Au groupe Garneau, nous serons toujours là pour vous.
Le groupe Garneau Thanatologue. Là pour vous.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de la neige et une bordée de plaisir, de découvertes et de souvenirs. En hiver, venez profiter de l'immensité de notre région avec une panoplie d'activités comme la motoneige, la raquette, le ski, les hébergements insolites et la pêche blanche, vous vivrez des expériences uniques. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est juste à côté. Alors venez nous visiter. Réservez votre séjour au saguenaylacsaintjean.ca.
Paul Piché présente 40 printemps, un album célébrant la riche carrière et l'œuvre de ce pilier de la chanson québécoise.
Tout passé, le soleil, la lune.
Redécouvrez ses succès revisités en duo avec des artistes tels que Florence K, Patrice Michaud, Marc Hervieux, Ingrid Saint-Pierre, Deux Frères et bien d'autres.
De sable et d'eau.
40 printemps de Paul Piché, disponible maintenant.
Depuis 40 ans, Pizza Royale vous offre des produits exclusifs, comme son authentique pepperoni.
En plus du service de livraison et pour emporter, Pizza Royale vous reçoit avec le sourire au buffet à volonté.
Pizza Royale Boulevard Amel et l'Express à Beauport.
Pizza Royale.
Avec son choix de spectacle inégalé, la salle Albert Rousseau a le cadeau vedette qui saura réjouir tous vos proches. Offrir un spectacle, c'est offrir un moment mémorable aux gens que vous aimez. Avec 60 idées cadeaux en humour, théâtre, chansons et variétés, il ne vous reste plus qu'à sortir votre liste et faire vos choix. Cette année, le cadeau vedette à Noël est assurément un spectacle de la salle Albert Rousseau. Réservation au sallealbertrousseau.com.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
EPSI, une firme de Gatineau spécialisée dans la gestion des ressources humaines, vient d'obtenir un contrat de 5 millions de dollars grâce à un partenariat avec IBM. EPSI fera passer des tests d'intelligence, d'habileté et de personnalité à des candidats à des postes ouverts par Excellon, un producteur d'électricité de Chicago.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
L'équipe des ventes du nouveau M102.9 et du FM 93 s'agrandit.
Ah ouais?
T'as de l'entre-jean?
Ben oui.
Tu veux travailler dans un environnement dynamique?
Certain.
T'aimerais faire partie de la grande famille Cogeco et avoir du fun en travaillant?
Hey, mais hein?
T'aimerais un salaire très compétitif, des avantages sociaux et les assurances collectives?
Ben voyons.
T'aimes faire de l'argent avec la vente?
Ben, okay.
Alors, arrête de répondre aux gars qui parlent à la radio, puis envoie-nous ton CV.
Parfait, je t'envoie ça.
J'ai dit arrête de me répondre. Envoie ton CV via l'onglet Carrière chez Cogeco au bas du fm93.com.
La morse avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h. Au FM 93.
Il est 5h19 dans l'amorce. Merci d'être là. On est mardi le 10 décembre 2019. Et côté météo, c'est un 10 décembre qui va passer à l'histoire. On bat un record de température aujourd'hui. C'était 4,5 degrés le plus haut qui avait été atteint. C'était en 2001. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, c'est un maximum de 7 degrés qui va être atteint. Ben oui, 7 degrés pour un 10 décembre avec des averses de pluie ou de neige. On a du neige, là, mais on s'entend que c'est peu probable. Présentement, là, vous allez le voir là, en sortant puis en prenant votre véhicule. Il y a des nappes de brouillard un peu. Ça devrait se dissiper dans les prochaines heures en matinée. Par la suite, comme je vous le disais, le maximum à atteindre est de 7. Et par la suite, ce refroidissement drastique pour ce soir et la nuit prochaine. Le minimum prévu est à moins 13. Donc, on descend de 20 degrés. Pour demain, c'est un maximum de moins 9 avec du soleil. Jeudi, moins 12 du soleil. Tendance à long terme, après ça, ça va être un petit peu plus doux. Moins 3 et même des températures un petit peu au-dessus de zéro à compter de samedi et dimanche, autour de 2 degrés. Et présentement, on a déjà 5 degrés à Québec. Alors, c'est plus des bottes de pluie que des bottes de neige qu'on va avoir besoin aujourd'hui. La grosse nouvelle dans le monde du sport hier, c'est tombé hier matin, c'est le fait que la Russie serait exclue des deux prochains Jeux olympiques, ceux de Tokyo et de Pékin, mais pas seulement des prochains Jeux olympiques. Ils vont être également privés de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Ils pourront pas organiser d'événements sportifs dans les dernières années. En fait, on veut punir la Russie d'avoir récidivé en falsifiant des données qui ont été remises à l'Agence mondiale antidopage. Il y a quand même un bon résumé dans le Journal de Québec des sanctions ce matin qui sont imposées à la Russie dans les prochaines années. D'abord, le drapeau russe va être banni des compétitions internationales pendant 4 ans. La Russie ne pourra pas organiser de grands événements sportifs. Il y aura interdiction pour les membres du gouvernement russe de siéger dans des fédérations sportives internationales. S'il y a un événement qui a déjà été attribué à la Russie, il va devoir être localisé dans un autre pays. Ni le président, ni le secrétaire général, ni le chef de la direction, ni aucun autre membre du conseil des comités olympiques et paralympiques russes ne pourra participer ou assister à un événement majeur. Et l'agence antidopage va devoir payer tous les frais encouru par l'Agence mondiale antidopage dans ce dossier, depuis 2019, janvier 2019, ainsi qu'une amende de 10% supplémentaire. Alors, il n'y aura pas de drapeau russe pour les deux prochaines Olympiques et dans toutes les compétitions attenantes mondiales. Et s'il y a des athlètes russes qui veulent y participer, pour des athlètes qui sont propres, ils vont devoir le prouver et devoir participer sous une bannière neutre. Il n'y aura pas d'hymne national olympique russe, évidemment. Alors, c'est un coup dur pour la Russie, mais c'est institutionnalisé depuis plusieurs années, ce dopage des athlètes. Alors, c'est une sanction que plusieurs qualifieront de méritée. Dans le Journal de Québec, encore une fois, il y a une autre nouvelle qui est assez surprenante. On avait déjà fait un exercice similaire dans Bouchard en parle, il y a de ça quelques semaines, en comparant certains salaires, notamment de députés ou de maires, par rapport à celui du premier ministre du Québec. Vous savez que le premier ministre du Québec, François Legault, a une rémunération de 196 193 $ par année. Donc, une année, c'est près de 200 000 $. Et là, dans le Journal de Québec, ce matin, on sort les salaires des recteurs des différentes universités et on se rend compte que c'est pas mal, mais pas mal plus payant d'être recteur dans une université que d'être premier ministre du Québec. Alors, on va commencer par le bas, puis on va monter, mais vous allez voir que ça monte très, très haut, les salaires des recteurs des universités. Université Bishop, c'est Michael Goldblum. Lui, il gagne 315 044 $ par année. À l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette gagne 322 439 $ par année. À l'Université Laval, ici à Québec, Sophie Damour gagne 340 215 $ par année. Université de Montréal, Guy Breton gagne 450 882 $ par année. Commence à être une méchante cagnotte. À Concordia, Alan Shepard, gagne 476 472 $ par année. Et la grande gagnante, c'est Suzanne Fortier à l'Université McGill, qui encaisse la coquette somme de 544 233 $. C'est presque 3 fois le salaire du premier ministre François Legault. Alors, je ne sais pas si c'est justifié qu'un recteur d'université gagne autant par rapport au premier ministre. Je sais que ce n'est pas les mêmes critères, puis on essaie de les attirer, tout ça, mais c'est quand même surprenant d'apprendre que le chef de notre gouvernement ici au Québec gagne beaucoup, mais beaucoup moins que bien des recteurs d'université un peu partout dans la province. À la une du soleil ce matin, une nouvelle concernant les stations de ski Mont-Saint-Anne et Toname, concernant leur responsabilité quant à des incidents, ça m'a fait sursauter un peu. Apparemment que les stations de Mont-Saint-Anne et Toname demandent à leurs abonnés, avant qu'ils achètent leur passe de ski, qu'on leur remette, de renoncer à les tenir responsables si jamais il y a un incident qui est dû à leur propre négligence. Alors, c'est un monsieur qui a contacté le Soleil. Il a voulu se procurer un abonnement de saison. Et là, il y avait un document à signer et il devait s'engager à renoncer à toute réclamation s'il subissait quelque chose, là, une blessure, par exemple, sur les terrains du Mont-Saint-Anne et de Stoneham. Alors, il dit, je prends toujours le temps de lire mes contrats attentivement. Je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine des assurances. Et là, j'ai dit, je peux pas signer ça. Ça n'a pas de bon sens de signer un document qui exonère les stations de ski de ce que je pourrais subir comme blessure sur place. Alors, ce qui est écrit en tant que tel dans le contrat, c'est « Un abonné doit accepter que la négligence comprenne le défaut des stations de ski et prendre des mesures raisonnables afin de se protéger des risques et dangers inhérents au ski, à la planche à neige, à la raquette, au ski de fond, au fat bike, au snowbiking et toutes les autres disciplines attenantes à ce qui peut se passer dans une station de ski. » Alors, comment on peut expliquer cette clause-là qui semble un peu bizarre? Ben, c'est que le Code civil québécois est pas tout à fait pareil à ce qui se passe ailleurs au Canada. Et faut dire que les stations de Mont-Saint-Anne et Stoneham font partie du groupe Resorts of the Canadian Rockies. Alors, ce sont des stations qui appartiennent à un groupe canadien anglais. C'est pas le même Code civil. Et là, on a demandé à un professeur de droit dans le soleil, là, Daniel Gardner, à l'Université Laval, qui a expliqué que dans le Code civil, une personne morale, donc une compagnie, par exemple, la station de ski Mont-Saint-Anne ou bien dans Stoneham, peut pas exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. Donc, ils peuvent pas s'exonérer pour quelque chose qui s'est pas produit encore. Donc, ce serait pas possible de faire signer ça par les abonnés. Alors, on verra si les stations de ski vont se gouverner en conséquence. Mais sachez-le, si vous êtes abonné dans ces deux stations-là, vous faites signer une feuille présentement pour que vous ne puissiez pas réclamer. Mais il semble que, d'après les experts qu'on a interrogé du côté du Soleil, de toute façon, ça soit caduque parce que même si c'est signé, ben c'est pas quelque chose qui est admissible au Code civil du Québec. C'est 5h26. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle et nous, on se reparle demain matin dès 5h. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.